Je vous invite à ouvrir votre Bible pour suivre deux lectures dans le Nouveau Testament et dans l'Épître aux Hébreux. Donc vers la fin de nos Bibles, Épître aux Hébreux, chapitre 2. Et verset 10, et voyez que je prends le temps parce que j'aime et apprécie lorsque les frères et sœurs réunis ne sont pas simplement des auditeurs passifs, mais des frères et sœurs engagés, qui participent, qui font équipe. C'est important. Et je vous encourage à ne pas délaisser cette qualité du contrôle personnel dans les Écritures de tout ce qui est partagé. Donc dans Hébreux au chapitre 2, le verset 10, dans le cadre d'un enseignement sur l'humanité du Fils de Dieu, il est écrit « Il convenait en effet » que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut, ou le conducteur de leur salut, l'initiateur de leur salut. Un peu plus loin, au chapitre 5, concernant la supériorité de Jésus en rapport avec la sacrificature de l'Ancienne Alliance, au verset 7, Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, hors de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Nous pourrions rendre ici l'expression parce qu'il y a deux termes minimum dans le texte grec qui peuvent être rendus par ce mot, mais avec des nuances. Et donc, rendez ce terme par l'expression soumission humble et respectueuse. La soumission humble et respectueuse du Seigneur Jésus. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et je brûle du désir, et je vais le faire, de partager encore les versets qui suivent, puisqu'ils traitent de la maturité spirituelle. Or, les participants à notre première soirée d'hier se souviennent que nous nous focalisons, nous nous centrons dans ce sujet tellement vaste qu'est celui de la souffrance, sur la souffrance vue comme école vers la maturité spirituelle. Et donc, ces versets 11 à 14 sont d'importance capitale. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. nonchalant d'oreille. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu avoir besoin de lait, non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, ici c'est le tout petit. Il est un bébé. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, les adultes, ceux qui sont mûrs, pour ceux dont le jugement, le sens moral est exercé, c'est en grec le mot qui a donné gymnastique, il fait sa gymnastique, il est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Comme l'indique le sous-titre de notre série de trois temps de réflexion sur ce pourquoi de la souffrance, nous allons, ce soir et demain matin, suivre un homme, des hommes, sur les chemins incompréhensibles, impénétrables, insondables de Dieu. Surtout en particulier dans ce cadre, je le répète, de la souffrance vue comme école vers la maturité spirituelle. Hier soir, nous nous sommes arrêtés sur une question très importante, parce qu'elle détermine beaucoup de choses dans notre compréhension, dans ce qu'il nous est possible de comprendre à partir des Écritures, et dans l'expérience sur cette question importante. Nous nous sommes arrêtés sur les rôles respectifs de Dieu et de Satan dans la souffrance. Je n'y reviens pas. Nous n'allons pas refaire l'étude. Nous bénissons Dieu de ce qu'il y ait des moyens de reproduction qui vous donnent accès à ce qui a été partagé hier soir. Ce soir, dans un premier court temps d'introduction, j'aimerais évoquer ces deux textes lus dans l'Épître aux Hébreux. Je pensais, à l'origine, dans ma préparation, considérer ce que je vais vous dire maintenant demain matin, et puis, en y réfléchissant et en priant, il m'a semblé sage et juste de le partager ce soir en introduction, de manière à ce que, ensuite, tout à l'heure, nous incarnions tout ce que nous avons déjà enseigné, concernant ces chemins incompréhensibles. Et puis demain matin, nous ferons de même à partir d'autres textes des Écritures, d'un autre texte en particulier, pour ajouter encore d'autres éléments de réflexion. Mais j'aimerais, je suis heureux de le faire, reconnaissant. J'aimerais que nous évoquions l'exemple de Jésus-Christ, que nous lui donnions honneur et gloire, comme il en est digne. En particulier ce soir, à partir de ce qui nous est dit, de ce qui est écrit de la part de Dieu, dans ces deux textes d'Hébreux 2 et 5. Parce que ces textes ont fait couler beaucoup de salive, beaucoup d'encre, ont suscité beaucoup d'interrogations et ont été mis à mal par un certain nombre de sectes parabibliques ou s'inspirant des Écritures pour en tordre le sens, pour les manipuler. Et il y a donc souvent un trouble dans le cœur de certains croyants qui s'achoppent sur ces textes, parce qu'il est écrit que le Seigneur Jésus, le Christ, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, premièrement. Et dans le droit fil de cette première affirmation quelque peu troublante à lecture superficielle, en vient une seconde qui accentue le malaise, puisqu'il est ensuite affirmé au verset 9 qu'il a été élevé à la perfection. Il nous faut donc comprendre ce que les Écritures dans leur ensemble disent, parce qu'il ne saurait y avoir dans les Écritures, surtout en plus, dans tous les domaines, mais bien sûr, en particulier concernant notre Dieu, des contradictions flagrantes opposant des textes fondamentaux à d'autres textes fondamentaux. Et nous sommes là en présence d'un texte fondamental qui peut servir de pierre de touche à l'évaluation de la position de nos interlocuteurs lorsqu'ils nous parlent de leur croyance ou de leur foi en Jésus-Christ. Un premier mot mérite une brève explication, c'est tout d'abord le mot obéissance. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est intéressant et important parce que dans cette école vers la maturité spirituelle qu'est la souffrance, ce terme générique, mais qui englobe tant de situations variées au fil de nos existences respectives, l'obéissance est importante. Et la souffrance, disons-le, est une école de l'obéissance. C'est une école de la dépendance, de la foi, chose souvent difficile parce que de nature et depuis la chute, nous aimons tellement l'indépendance, avec pourtant toutes les conséquences destructrice qu'elle engendre. Nous avons plusieurs termes, deux essentiellement dans le Nouveau Testament, qui dans le texte grec peuvent être traduits par obéissance ou par des mots très proches. Mais nous sommes ici en présence du terme le plus couramment présent dans les textes du Nouveau Testament. Et il est intéressant de savoir que c'est un obéir ici, c'est un terme, tout comme le nom d'ailleurs, qui est composé de deux parties. Vous avez un préfixe qui laisse entendre que celui qui obéit se place en dessous de celui qui lui parle. Et il se place en dessous, c'est-à-dire qu'il se soumet, il se met en dessous, pour écouter. L'obéissance, c'est l'écoute en dessous d'eux, c'est-à-dire sous l'autorité d'eux. C'est une écoute qui se traduit par la soumission. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre ce texte. Il a été exaucé à cause de sa soumission, humble et respectueuse. Par contre, désobéir est composé aussi de deux parties, mais le préfixe est différent. Ce n'est plus se placer dessous, mais c'est se placer à côté, c'est-à-dire dans un geste d'éloignement. Je refuse de rester sous l'autorité de celui ou de celle qui parle. Je m'éloigne. Et le verbe est le même, c'est l'écoute. J'écoute, mais je ne veux plus accepter l'autorité de celui qui parle, donc il y a un processus de rupture et d'éloignement. Voilà un premier point important. Essayons maintenant de comprendre ce que Dieu veut nous dire, non seulement par ce texte, mais ce qu'il dit ailleurs dans les Écritures, en termes aussi accessibles. Nous savons que la Bible s'explique par la Bible, d'où la nécessité d'être de fervents lecteurs, étudiants des Écritures, considérés dans leur totalité, et non pas en faisant une sélection de textes qui nous passionnent, qui touchent notre affectif ou je ne sais quoi encore, au détriment d'autres passages qui pourraient nous apporter l'équilibre dont nous avons besoin. Pour essayer de bien comprendre ce texte, nous allons entrer sur la pointe des pieds. Je le fais avec énormément de précautions parce que d'une part nous foulons un sol très saint et il nous faut être très sobre parce que nous savons peu de choses. Nous laissons parler les Écritures, nous évitons de laisser parler notre imagination. Je pense simplement ici au Christ, au Fils de Dieu, avant l'incarnation, avant ce mystère, ce miracle extraordinaire, incompréhensible aussi, qui nous dépasse infiniment, dont nous parlons si vite. Le Fils de Dieu avant l'incarnation de toute éternité, un avec le Père, égal au Père, mais, ou est, volontairement soumis, obéissant au Père, comme il en sera dans l'éternité future, puisque par exemple 1 Corinthiens 15, 28 nous dit que le Fils sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Subordination volontaire dans ce mystère de ce que nous appelons la Trinité, dans cette relation toute particulière et exemplaire à plus d'un titre qui devrait nous inspirer à l'échelle humaine dans bien des domaines. En venant sur la terre, le Fils de Dieu est entré dans un tout nouveau champ d'expérience comme homme, par amour pour nous. Il a donc accepté volontairement d'être enfermé dans le temps et dans l'espace. Et bien entendu, il est entré dans un nouveau champ d'expérience, dans une soumission au Père, à l'intérieur de cette nouvelle condition qui était celle de l'incarnation sur la terre, pendant toute une durée de vie d'un peu plus de 30 ans. Il allait vivre dans ce nouveau champ d'expérience très particulier. Alors, pour bien comprendre ce texte, je voudrais prendre ici simplement l'illustration suivante. Imaginons, pour bien concrétiser, devant le Seigneur Jésus, un grand escalier, avec des centaines, voire des milliers de marches, escaliers qui s'élèvent peu à peu, Et là-haut, tout à fait au début du ministère du Seigneur Jésus, ici-bas, se profile la croix. Et bien entendu, au-delà de la croix, le tombeau vide, la résurrection, le retour dans la présence, là-haut, dans le ciel, aux côtés du Père. Chaque marche de cet escalier, considérons-la comme un nouveau test d'obéissance. Et qui dit test d'obéissance, dit d'une manière ou d'une autre, nouvelle souffrance, nouvelle épreuve, nouvelle tentation. Et pour nous qui sommes familiarisés avec les récits des évangiles, nous savons aussi comment progressivement la situation, le climat a évolué dans la relation entre tous ceux qui observaient, qui s'adressaient à Christ et le Christ lui-même. Et nous savons combien les choses sont devenues difficiles, comment à un moment donné il durcit son visage pour se tourner résolument vers Jérusalem, sachant que désormais, le moment de l'arrestation, le moment de Gethsémané, et puis le moment de la mise en croix est proche. Tout cela, bien entendu, répétons-le, le Seigneur Jésus ne l'avait jamais connu au ciel. Chaque marche va être plus douloureuse que la précédente. La tentation, nous en avons parlé hier, épreuve, tentation, la tentation va être de plus en plus grande de quitter la dépendance et l'obéissance au Père. Il sera nécessaire, en quelque sorte, de hisser, j'utilise nos termes parce que nous sommes limités, nous utilisons le vocabulaire qui est mise à notre disposition, n'est-ce pas? Jésus va hisser son obéissance dans l'intimité du Père à un nouveau degré. Pour mieux comprendre le dynamisme de cette montée vers la croix, nous pouvons imaginer un concours d'athlétisme au niveau du saut en hauteur ou du saut à la perche, vous imaginez ce champion du saut en hauteur, et vous connaissez la règle, il y a 3 essais, si on n'a pas réussi à franchir la barre sans qu'elle tombe au bout de 3 essais, on est éliminé. Alors le sauteur prend son élan, il franchit la barre, elle ne tremble même pas, il y a de l'espace encore. Alors on hisse un petit peu plus haut. Et bien entendu, plus la barre monte, plus l'effort est difficile, plus les risques sont grands. Il faut si peu de choses quand ça monte, n'est-ce pas? Et puis il arrive le moment où l'athlète atteint ses limites. Plus ou moins haut. Et ce qui est merveilleux, dans l'exemple du Seigneur Jésus et à la fois dans son amour pour le Père, dans son obéissance au Père, dans son désir permanent de faire tout ce qui lui était agréable, un des grands messages de l'Évangile selon Jean, ce qui est merveilleux, c'est que à chaque marche, c'est-à-dire chaque fois que la barre était mise un peu plus haut, dans son intimité avec le Père et par amour pour nous, Jésus franchissait la barre du premier coup et sans qu'elle bouge un seul instant. Et c'était de plus en plus difficile, n'est-ce pas? Et on sait toutes les souffrances, toutes les entourloupettes, tous les pièges, toutes les coalitions, toute la méchanceté s'est dressée sur son chemin. En particulier, plus la croix était proche. Christ a gravi chaque marche parfaitement, chaque nouvelle épreuve était une nouvelle obéissance parfaite, une soumission complète et sans réserve au Père. Le Seigneur Jésus s'est donc progressivement élevé de perfection en perfection. À chaque degré, il était en perfection absolue, mais il élevait cette perfection à un niveau d'exigence dans l'épreuve et la tentation qui chaque fois était un peu plus élevé. Et chaque fois, à 100%, il était vainqueur dans sa soumission humble et respectueuse au Père, dans son amour pour lui, dans son unité avec lui et dans son amour pour l'homme qu'il voulait sauver, justifier, acquitter, déclarer juste par sa mort sur la croix. Christ s'est donc progressivement élevé de perfection en perfection dans l'obéissance jusqu'à l'obéissance suprême, celle de la croix, et c'est ainsi qu'il a rempli les conditions requises pour que nous puissions être sauvés. Christ était mûr à chaque étape. Chaque nouveau test dans ce champ inconnu de la souffrance humaine a été passé avec succès et il a finalement connu la maturité la plus élevée sur la terre qu'aucun homme n'a pu connaître ici-bas. Et c'est ce qui me vaut d'avoir été attiré par sa grâce et d'avoir un jour capituler pour qu'il soit non seulement sauveur, mais Seigneur de ma vie. D'où, au chapitre 2, ces autres versets tellement importants dans le cadre de ce que nous partageons ce soir. Je veux parler des derniers versets du chapitre 2, les versets 17 et 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Quel message dans le cadre de ces chemins incompréhensibles que vous et moi sommes appelés, que nous en ayons envie ou non, à fouler dans notre cheminement vers cette rencontre éternelle avec lui. J'ai sous les yeux ce court texte tiré de la plume de cette femme de Dieu, ô femme de souffrance, s'il en est, amie car Michael à la française ou à la suisse francophone, ou je ne sais comment dire, amie car Michael, qui donc a vécu de 1867 à 1951, ce n'est pas encore très loin, qui œuvra en particulier en Inde, ce n'était pas son premier pays missionnaire, mais elle y a vécu 55 ans, n'est jamais rentrée en congé, puis l'arthrite l'a clouée sur un lit où, pendant des années, Dieu l'a utilisée pour un ministère tellement béni d'une grande richesse. Elle a rédigé, je crois, quelques 35 livres, et nous sommes encore aujourd'hui au bénéfice du ministère de cette femme de Dieu, qui aimait son Seigneur. Et elle parle dans ce texte d'une expérience qu'elle avait vécue étant enfant. Et elle écrit ceci. « Quand j'étais jeune, j'avais l'habitude d'enfoncer mes mains dans la boîte à farine dès que j'en avais l'occasion. Rien ni la peau de phoque, ni le pelage d'un chat, ni le velours, ni même l'eau ne me semblait aussi merveilleusement doux et délicat que la fleur de farine. Plus tard, quand j'ai lu le Lévitique et Nombre, et que j'ai découvert que la farine était utilisée comme type de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris au moins une raison pour laquelle on le comparait à la fleur de farine. Celle-ci a été moulue au plus haut point. Notre divin Sauveur était de la fleur de farine dès le début, et pourtant, d'une manière terrible, il est passé au moulin de dures épreuves. Il a souffert. Il a été tenté. Et voyez-vous, ce message des souffrances de Christ était pour les rabbins de son temps un message absolument révolutionnaire, surtout dans la mesure où Jésus se présentait, ou avec beaucoup de précaution, comme étant le Fils de Dieu, comme étant Dieu venu en chair au milieu des hommes. Parce que les Juifs pensaient qu'à cause de sa sainteté qui le séparait des hommes, Dieu était impénétrable aux sentiments de l'homme, qu'il ne pouvait éprouver les sentiments de l'homme. Il était trop distant, il était trop éloigné de l'homme de par sa nature pour être en mesure de s'identifier à ses sentiments, à ses tentations, à ses problèmes. Quelle révolution ! Que cette merveilleuse sensibilité de notre Dieu, lorsque elle se révèle à celui qui se tourne vers Jésus-Christ. Il est intéressant de constater combien Dieu n'est pas apathique dans les Écritures. C'est une des raisons pour lesquelles mon cœur est enthousiaste pour Dieu, parce que Dieu est un Dieu accessible, ne fût-ce que parce que dans sa sainteté transcendante qui, c'est vrai, le sépare dans son essence de nous-mêmes, il nous est tellement proche. Dans les accents des prophètes qui se sont succédés dans l'histoire d'Israël, j'ai sous les yeux quelques passages concernant toutes les émotions de Dieu à l'égard du peuple d'Israël, la manière dont il entend le cri des captifs en Égypte, Ésaïe 63:9, toute leur détresse était pour lui aussi une détresse. Ce cœur de Dieu qui vibre de souffrance dans les livres de Jérémie et d'Osée. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant choyé, demande-t-il. Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est vivace en moi. Aussi, mes entrailles frémissent-elles en sa faveur, j'aurai une profonde compassion pour lui, oracle de l'Éternel. Osée 11:8, mon cœur est bouleversé, toutes mes entrailles s'émeuvent. Pourquoi m'avez-vous abandonné, crie Dieu à son peuple. Ou encore, dans Ésaïe 42:14, j'ai longtemps gardé le silence, je me tais, je me contiens, je gémis comme une femme en travail, je suis haletant et je souffle tout à la fois. N'est-ce pas extraordinaire d'avoir un Dieu qui, c'est extraordinaire, un Dieu qui souffre, un Dieu qui vibre. Oh, combien ce grand Dieu nous est proche et combien il nous est devenu proche encore plus dans ce miracle extraordinaire de l'incarnation. Je pense à cet homme de Dieu qui a fait cette réflexion au cours de mes séjours en Asie. J'ai souvent eu l'occasion d'observer la statue de Bouddha, gras, les jambes croisées, les mains jointes, les yeux fermés, l'air absent, totalement détaché des souffrances de ce monde. Alors, par la pensée, je revoyais un homme suspendu à une croix, les mains et les pieds percés de clous, plongé dans la nuit la plus noire de l'abandon. Qui était cet homme? C'était Jésus, le Fils de Dieu. Il est entré dans notre monde de chair et de sang, de larmes et de mort. Il a souffert pour nous. Voilà le Dieu qu'il me fallait. Et je pense à ce théologien protestant et grand résistant de la dernière guerre mondiale, Dietrich Bonhoeffer, qui, très peu de temps après, avant d'être exécuté en avril 1945 sur l'ordre direct de Hitler, écrit ceci dans ses lettres écrites en prison. Il est infiniment plus facile de souffrir par obéissance à un ordre humain que d'accepter la souffrance en tant qu'homme libre et responsable. Il est infiniment plus facile de souffrir avec d'autres que de souffrir seul. Il est infiniment plus facile de souffrir comme un héros public que de souffrir dans un coin et dans l'ignominie. Il est infiniment plus facile de souffrir une mort physique que d'endurer une souffrance spirituelle. Le Christ a souffert en tant qu'homme libre, seul, dans un coin et dans l'ignominie, dans son corps et son esprit. Et depuis ce jour, beaucoup de chrétiens ont souffert avec lui. Voilà ce qu'il m'importait de brosser comme fresque sur la personne de Christ, son obéissance parfaite, son élévation à la perfection telle que nous devons la comprendre à travers les Écritures, et cela ne peut servir maintenant que de toile de fond à toute la suite de notre réflexion jusqu'à l'issue du message de demain. Alors incarnons, au-delà de cette incarnation unique, dans l'histoire du cosmos, incarnons ce que nous avons dû jusqu'ici sur cette question de la place de Satan et de la place de Dieu dans ce domaine de nos souffrances, en considérant ce que j'aime appeler la guerre des deux trônes. Si j'étais metteur en scène, j'aimerais monter un film que j'intitulerai à peu près de cette manière. Et c'est vrai qu'il est des passages des Écritures, de longs chapitres, qui sont, mais d'un suspense haletant, palpitant, et d'une richesse spirituelle tellement extraordinaire qu'on se demande pourquoi nous sommes tellement négligents dans notre approche de l'Ancien Testament. Je pense ici simplement à la relation entre David, le jeune David, le roi en puissance, le roi selon le cœur de Dieu, mais qui n'est pas encore monté sur le trône, sans doute environ une dizaine d'années vont s'écouler avant qu'à l'âge de 30 ans, il monte sur le trône pour un règne restreint tout d'abord à la seule tribu de Juda, et qui va vivre pendant cette dizaine d'années un nombre impressionnant de tentatives d'assassinat par le premier roi, le roi Saül. Période très difficile pour David. David est là sur un de ces chemins incompréhensibles. Et je répète ce que nous disions hier soir. Nous avons dans les biographies bibliques les questions et les réponses. David ne savait pas ce qu'il attendait. C'était de jour en jour de nouvelles découvertes sur la capacité de méchanceté, de cruauté, de perversité de ce roi décadent, rétrograde, qu'était Saül. Et c'est ainsi que David va progressivement être dépouillé de tous ses appuis. Il va perdre sa position élevée, et avec cette position son succès notoire au sein du peuple d'Israël. Il va perdre son travail, il va perdre sa femme, il va perdre sa maison, Il va perdre un vieillard qu'il aime tellement, qui est devenu son confident. Samuel, cet homme de prière et riche d'expérience en temps difficile, il va finalement perdre Jonathan, cet ami dont nous dirons peut-être quelques mots demain matin. Et entre-temps, il aura parfois perdu sa dignité lorsqu'il perdra les pédales et la tête avec Achish, roi de Gath, en faisant le fou, l'insensé, pour échapper à la mort. Pendant 10 ans, donc, c'est la lutte du roi selon la chair, selon le cœur des hommes, c'est la lutte du roi déchu contre le roi selon le cœur de Dieu. C'est la lutte de la chair contre l'esprit. Nous avons évoqué la chair hier. Oh, il y a plusieurs définitions, plusieurs directions. Depuis les parties molles du corps humain jusqu'à ce qui nous intéresse, n'est-ce pas ici, c'est-à-dire notre nature humaine, déchue, héritée, faussée, avec ses penchants au mal, ses désirs corrompus, ses exigences égoïstes, cette chair qui n'est pas réformable, irrégénée et irrégénérable, ce qui est né de la chair est chair. Appelé parfois le vieil homme, et je le redis après l'avoir dit hier, l'hippopotame moi, ce moi dont on nous rabâche dans notre littérature évangélique moderne. Comme si aujourd'hui les hommes avaient oublié de s'aimer eux-mêmes. Mes amis, jamais l'homme ne s'est autant aimé lui-même qu'aujourd'hui. Ce n'est pas son problème, c'est un faux problème. Son véritable problème, c'est qu'il n'aime plus Dieu. Tournez-vous vers Dieu et vous ne serez plus préoccupé par votre propre nombril. Et c'est là quelque chose d'extraordinaire qui transcende tout le reste. D'avoir les regards orientés dans la bonne direction, c'est un des grands thèmes de mon avant-dernier livre sur le découragement dans la vie du prophète Élie. Et cette chair, cet hippopotame moi, cette chair a été mise à mort au moment de la mort de Christ sur la croix. Elle ne règne donc plus sur nous, elle ne nous tient plus en esclavage. Mais cela me fait penser à un petit cliché comme cela qui m'a accroché l'œil lors d'un séjour au Liban et en Syrie en 1995. Nous étions en train de nous promener simplement à deux sur un chemin dans les montagnes du Liban. Et nous sommes à un moment donné passés à côté d'une maison. Il y avait là un Libanais et... Bon, j'étais occupé à bavarder, mais j'ai quand même vu un geste à un moment donné, un geste sec, très net, et j'ai compris très rapidement le sens de ce geste quand j'ai vu un poulet qui filait dans une direction. Alors j'ai regardé le poulet, parce que j'avais deviné le geste, en me disant, mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Et j'ai très vite compris, parce qu'après avoir... filait tout droit, il s'est mis à faire ce que font les planeurs quand ils arrivent au sol, et puis il s'est mis à tourner de plus en plus, et à un moment donné, il s'est écroulé, parce qu'il n'avait plus de tête. Il était décapité. Et vous savez ce qui se passe quand on décapite un poulet. Et il continue à faire un petit bonhomme de chemin incompréhensible. Mais c'est cela le problème de la chair, n'est-ce pas? Mise à mort, exécutée sur la croix. Mais nous sommes des poulets sans tête. Nous sommes des poulets sans tête. Cela me fait penser à cette histoire vécue lors d'un séjour en Afrique, au centre de la Côte d'Ivoire, où je devais donner un enseignement systématique sur l'Épître aux Romains, sur une grande station missionnaire. Et ce qui m'avait intrigué sur cette station missionnaire, c'était la présence de dizaines et de dizaines de cercueils vides qui étaient là, à certains endroits, contre des murs. Et je me suis enquis de la raison de la présence de ces cercueils. Et on m'a expliqué que c'était un moyen de garnir les caisses financières de la mission pour son travail d'évangélisation, puisqu'il y avait besoin de travaux de menuisier pour fabriquer des cercueils pour les environs. Et comme je traitais notamment de Romains 6, 7 et 8, pendant un arrêt dans l'étude, un moment de récréation, quand les étudiants étaient dispersés, j'ai demandé à certains d'entre eux d'avoir la gentillesse de transporter un de ces cercueils jusque dans notre salle d'étude et de le placer là bien à l'avant sous mes yeux et sous les yeux de ces étudiants lorsqu'ils allaient rentrer de leur temps de récréation. Je n'ai pas poussé l'image comme je l'aurais souhaité jusqu'à son extrême, parce que dans ma tête courait l'idée de demander à un de ses étudiants de se glisser dans le cercueil suffisamment brièvement pour qu'il n'ait pas lui-même de crainte, mais pour expliquer le problème, oui, de la poule qui n'a plus de tête, c'est-à-dire de celui qui est dans le cercueil, mais qui à un moment donné, de temps en temps, pousse le couvercle pour dire « je suis encore là !» Alors je ne voulais pas le faire pour respecter nos chers amis avec tout ce qu'il y a en arrière-plan, peut-être dans la tradition, etc. Mais nos amis ont compris. J'ai été crucifié avec Christ, mais en même temps, cette nécessité en permanence de laisser, de maintenir sous la croix ou de revenir à la croix, pour que cette crucifixion s'incarne, qu'elle ne soit plus seulement une position, mais une expérience dans notre vécu quotidien. Lutte, avons-nous dit, de la chair contre l'esprit. Saül le charnel va lutter à mort contre ce qui est spirituel en David. Et c'est donc le crescendo d'une haine épouvantable, et vous le lirez dans ces chapitres 18 et suivants en particulier. 3000 hommes d'élite, avec à leur tête un généralissime très très capable dans le domaine militaire, ce roi Saül, et en face d'eux, celui qui s'appelle une puce, un chien mort. Oh, non pas parce qu'il faisait un quelconque complexe d'infériorité, étant le dernier d'une famille, comme je l'ai lu dans certains ouvrages évangéliques, écrits même par des auteurs français, mes amis. Quelle humilité chez David, à cause de cette place que Dieu occupait de plus en plus dans sa vie, déjà dans la confrontation avec Goliath. Romains 8, 7, il est question des tendances de la chair qui sont ennemies de Dieu. Galates 4, 29, conflit entre Ismaël, le fils de l'effort propre, et Isaac, le fils de l'esprit, de la promesse, de la grâce. Galates 5, 17, la chair a des désirs contraires à l'esprit. L'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Qui d'entre nous n'a pas connu cela et ne le connaît pas à certains moments de manière tellement forte dans la vie? Alors une question se pose ici. Qui se cache derrière Saül? Qui donc se cache derrière Saül? Et il fut un temps où, très rapidement, parce que je me plaisais à lire ces histoires passionnantes, j'étais haletant et bouleversé, et je m'interrogeais en moi, au fil de ma lecture, croissait une haine vis-à-vis de ce Saül à la méchanceté de plus en plus épouvantable. Et bien entendu, spontanément, jaillissait en moi la réponse qui se cache derrière Saül, mais Satan, bien entendu. Le but de la puissance des ténèbres était d'éliminer David, de lui faire faire une faute qui le disqualifierait à jamais. C'était de briser la chaîne de la lignée conduisant à Christ. David en était un maillon particulièrement stratégique. On comprend la rage et les efforts de la puissance des ténèbres. Et béni soit Dieu pour le jour où il a dessillé les yeux de mon cœur pour que je puisse commencer à lire ces mêmes chapitres avec un autre regard, en découvrant qu'en réalité c'était Dieu qui était à l'origine première, c'est ce que nous disions hier. Dieu éprouve, il permet la tentation, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, tout cela appartient à sa souveraineté absolue. Saül est en réalité l'instrument de Dieu, non pour faire tomber David, mais pour crucifier la chair, pour former peu à peu en David, à son époque, 1000 ans avant Jésus-Christ, avec les lumières de cette époque, l'homme spirituel. Et puisque Saül ne peut plus servir librement, avec joie, pour l'accomplissement du plan de Dieu, il servira, malgré lui, à quelque chose, même dans sa déchéance progressive, parce qu'il est soumis à la parfaite et totale souveraineté de Dieu. Il ne veut pas être vase d'honneur, propre à toute œuvre bonne, il sera vase d'un usage vil, mais que Dieu utilisera quand même pour faire son œuvre dans le cœur de David. Dieu se sert de Saül le charnel pour combattre le Saül tapi au fond du cœur de David. Et nous nous souvenons ce soir qu'il y a un Saül caché au fond de chacun de nos cœurs. Alors vous me direz, mais comment affirmer de telles choses? Sur quoi nous appuyer solidement, objectivement, pour faire de telles déclarations? Eh bien, nous avons les preuves dans le premier livre de Samuel lui-même, au chapitre 16 tout d'abord, donc vous revenez en arrière dans votre Bible, vers le premier livre de Samuel, donc Josué juge Ruth 1 Samuel, chapitre 16, qui commence avec l'onction de David, choisi pour succéder un jour à Saül, mais qui doit encore passer par la formation à la royauté. Et puis nous avons cette rupture qui intervient entre les versets 13 et 14. Verset 13 d'1 Samuel 16, « Samuel prit la corne d'huile, oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit, s'empara de David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité, c'est un terme très fort, il y a de l'épouvante derrière, de l'effroi, il fut agité par un mauvais esprit venant de Satan. Vous avez un problème? Quel est votre problème? Je vous comprends. C'est d'ailleurs volontairement que j'ai introduit cette erreur, qui montre l'importance de suivre dans les Écritures, n'est-ce pas? Parce que nous avalons dans la prédication beaucoup de choses qui finalement favorisent le ministère des faux docteurs parmi nous, parce que c'est ainsi qu'ils procèdent. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alors on se dit, mais c'est pas possible! Le scribe devait être amoureux, il devait penser à sa belle, était-il indisposé sur le point de s'aliter? Alors on poursuit la lecture. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit. D'ailleurs, là, le venant peut être expulsé, le texte hébreu ne le met même pas, un mauvais esprit de Dieu, mais ça sous-entend, n'est-ce pas? Un mauvais esprit de Dieu t'agite. Ah. Est-ce qu'il était distrait à ce point-là? Ce scribe, pour immédiatement refaire la même faute un peu plus loin? Alors on continue la lecture. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de l'harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, tu seras soulagé. Trois fois. Et on peut voir, dans cette triple affirmation, une sorte de superlatif à la mode des Hébreux, puisque le superlatif résidait en particulier dans la répétition. Soit deux fois, soit trois fois. Répétition en disant trois fois la même expression qui était vraiment le superlatif poussé à son plus haut niveau. Saint, saint, saint est l'Éternel. Alors quand on sait que, si nous allons ensuite au verset 23, il est écrit « Lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. » Ou encore, plus loin, au chapitre 18, verset 10, « Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül. » Ou encore, au chapitre 19 et au verset 9, « Alors le mauvais esprit venant de Dieu fut sur Saül. » Six fois. Six fois. Comme si Dieu, dans son amour et dans cette pédagogie extraordinaire qui filtre partout, qui apparaît partout dans les Écritures, voulait vraiment enfoncer le clou, nous donner un message que nous sommes en train de développer. Six fois, Satan et les esprits malins ne peuvent agir sans la permission de Dieu. Et ce mauvais esprit était autorisé directement par Dieu à s'attaquer à Saül comme jugement. Mais Dieu était derrière. Dieu était derrière. Et Dieu contrôlait. Et nous pourrions, si nous prenions le temps, prendre tant d'autres passages des Écritures. Il y en a deux alors qu'ils sont flagrants. C'est 1 Chronique 21. Verset premier qui touche à un dénombrement coupable suivi d'un jugement sur mesure de la part de Dieu à cause de l'orgueil du peuple d'Israël et de son roi parvenu au sommet de son succès. 1 Chronique 21 verset premier, Satan se leva contre Israël, il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et nous avons un texte équivalent à celui-ci, c'est exactement du même événement qu'il s'agit, lorsqu'on analyse les deux textes de très près, dans 2 Samuel au chapitre 24 et au verset 1er. Alors retenez bien, pendant que vous cherchez 2 Samuel 24 verset 1er, je vous relis le verset 1 de 1 Chronique 21. « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » 2 Samuel 24, verset 1, « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Complémentarité des deux passages. Dans 1 Chronique, vous avez l'instrument direct qui est sous l'autorité de Dieu. Et dans 2 Samuel, chapitre 24, vous avez Dieu lui-même dans sa souveraineté. Dieu donne l'autorisation à Satan d'agir, il se sert de lui pour révéler à David et à tout Israël l'orgueil de la chair, la gloire propre qui est en train de corrompre toute la nation. Et là où Satan ne voit qu'une occasion de détruire, Dieu met à l'épreuve en vue du salut du peuple menacé. C'est un châtiment destiné à construire
du neuf.
Et là, nous rejoignons tout simplement ce que nous avons considéré hier soir dans notre introduction. Vous vous souvenez de ce tableau tragique que nous avons brossé de l'histoire de Job. Mais l'histoire de Job commence ainsi et tout le déroulement de l'histoire de Job baigne dans ce que nous sommes en train de souligner concernant cette souveraineté absolue de Dieu. Dans le livre de Job, c'est Dieu qui rencontre Satan pour la première fois et qui conclut le marché concernant Job. Dans le livre de Job, c'est Dieu qui laisse l'adversaire s'en prendre à Job. C'est Dieu qui fixe les limites à chaque attaque. C'est Dieu qui permet d'un bout à l'autre que tout cela arrive. C'est Dieu qui rompt le silence et qui parle à Job. C'est Dieu qui, en fin de compte, rectifie le tir, réprimante ses conseillers misérables et qui récompense son fidèle serviteur. Il est là, d'un bout à l'autre, comme celui qui prend l'initiative. Et là, je pense à cet excellent commentaire en deux volumes du regretté Jules Marcel Dicolle, avec lequel j'ai beaucoup travaillé pendant mon ministère, qui a écrit dans un de ses volumes sur Job, à partir du verset « Seulement ne porte pas la main sur lui », Job 1:12, « Le pouvoir de Satan est strictement limité par la toute-puissance divine. Il ne peut rien faire au-delà de ce que le Seigneur lui accorde la possibilité de faire. Quoi qu'en dise un de nos cantiques, Satan ne peut jamais se déchaîner vraiment. Nous pouvons trouver déconcertant que sa chaîne soit parfois si longue, surtout dans le cas de Job, parfois dans le nôtre. Soyons pourtant rassurés, il y reste rivé, et c'est le Seigneur qui tient solidement l'autre bout. Satan n'est pas plus tout-puissant qu'il n'est omniprésent. » Combien cela me fait du bien quand je parcours une partie de ce chemin de mon itinéraire avec Dieu et que cette partie m'est véritablement incompréhensible. Alors en allant vers la fin de cette étude, nous dirons que c'est donc avec la permission de Dieu, sous son contrôle constant, que ce mauvais esprit va se dresser par Saül contre David pour sa formation en vue du règne, et à l'heure prévue par Dieu, Saül mourra. Et David montera sur le trône pour la royauté à laquelle Dieu l'a préparé. Terminons, si vous le voulez bien, en actualisant. Si je comprends bien, Dieu s'est servi d'un lunatique, lié par un esprit malin, dirions-nous, impulsif, terriblement versatile, dévoré de jalousie orgueilleuse, secoué de crises de folie meurtrière, ayant les symptômes, dirions-nous aujourd'hui, d'une psychose maniaque dépressive. Mais nous ajoutons néanmoins, et je pense à un livre qui a été beaucoup lu, et dans lequel l'auteur dit que le diable n'a rien à voir là-dedans, que ce ne sont que des dérèglements de mécanismes psychologiques. Non ! Je dis non ! Par respect pour ce texte, nous n'avons aucune liberté d'interpréter comme nous en avons envie de tels textes, d'autant plus quand on voit avec quelle insistance Dieu montre l'activité de la puissance des ténèbres sous son contrôle. Dieu s'est donc servi d'un tel personnage pour former le plus grand roi d'Israël et développer en lui le caractère du fils de David. Quelque chose apparaissait déjà dans
la beauté de David de la personne de Jésus-Christ. Oh, certes, il y a eu cette chute qui a assombri terriblement les 20 dernières années de son règne. Mais que de passages où David tourne déjà nos regards vers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, et je suis solidaire avec vous, Dieu se sert d'un patron irascible, au sale caractère. Je pense à un Pierre 2,18. Un patron qui a une scoliose du caractère, dit le texte grec. Il se sert d'un tel patron pour nous transformer à la ressemblance du Seigneur Jésus. Il se sert d'un voisin de chambre impossible, d'un croyant rétrograde et charnel, de frères et sœurs difficiles à vivre, d'un conjoint non converti à Christ, et je le dis avec un profond respect, et en m'associant tant que faire se peut à la souffrance de celui ou de celle ou de ceux qui parmi nous pourraient vivre une telle situation. Dans l'église où pendant une dizaine d'années j'ai exercé un ministère pastoral, nous avions une dizaine de couples qui étaient ainsi désunis, l'un étant au Seigneur, l'autre n'en voulant pas. Et toute une partie de notre ministère était un ministère d'encouragement, de consolation, de soutien pour aider ces croyants qui devaient lutter seuls, heureusement avec Dieu, à cause de l'inimitié, de l'hostilité, allant jusqu'au divorce dans certains cas. Et pourtant, ce que nous disons ici est vrai. J'ai sous les yeux ce texte d'un de ces hommes de Dieu du 18e qui ont écrit des choses absolument remarquables et qui s'appuie sur cette remarque. Mon conjoint se conduit de mal en pis. J'attendais le miel et voici le dard. Il répond oui. Il est triste de voir unis la vie et la mort. Cependant, ne laissez pas le mécontentement agiter votre cœur. Affligez-vous des péchés de l'homme, mais ne murmurez pas contre Dieu. C'est lui qui l'a placé auprès de vous, et vous ne pouvez pas laisser entrer le mécontentement sans vous quereller avec Dieu lui-même. Quoi ? Mettrions-nous sa sagesse en question à cause de chaque épreuve qui nous touche ? Oh, le blasphème de notre cœur ! Dieu peut vous bénir au travers du péché de ce conjoint. Peut-être n'auriez-vous pas acquis autant de bonté s'il n'avait été aussi mauvais. Le feu brûle avec plus de chaleur au milieu du froid. Par un mystérieux échange, Dieu transforme souvent les péchés d'autrui en notre bien. Il fait de leur maladie notre médicament. Plus le mari est profane et terrestre, plus la femme grandit dans la sainteté vers le céleste. Dieu donne parfois au péché du mari de servir d'aiguillon à la grâce de sa femme. Les excès de l'un servent de soufflet pour attiser la flamme du zèle et de la dévotion de l'autre. N'en est-il pas ainsi dans l'expérience ? La méchanceté de votre conjoint ne vous pousse-t-elle pas à la prière ? Vous n'auriez peut-être pas prié beaucoup s'il n'avait pas autant péché. L'œuvre de la mort en lui développe la vie en vous. La dureté de son cœur de pierre est le marteau qui brise le vôtre. L'apôtre Paul dit « La femme non croyante est sanctifiée par le mari » en Corinthiens 7,14. Mais dans ce sens, l'époux croyant aussi est sanctifié par son conjoint non croyant. Il grandit dans la grâce car le péché de l'autre lui sert de pierre à aiguiser et de médicament. Faut-il, par précaution, ajouter que ceci ne saurait servir d'invitation pour quiconque étant célibataire, appartenant à Christ, à épouser l'autre qui appartiendrait encore au royaume des ténèbres. Il est bien entendu que dans ce texte, il s'agit d'abord et avant tout d'un couple dans lequel les deux étaient mariés non-croyants, puis l'un s'est tourné vers le Seigneur, et l'épée annoncée par Jésus a commencé à fonctionner au sein de la famille. Nous allons nous arrêter là simplement en disant qu'ainsi, Dieu traite l'hypopontame moi. Il nous fait perdre nos illusions, notre confiance en nous-mêmes, afin que notre règne disparaisse et que son règne vienne dans nos vies. Comme nous n'avons pas la possibilité de nous crucifier nous-mêmes, il appartient aux autres de le faire à notre place. Et nous avons à louer Dieu, et là, je rends grâce à cet homme de Dieu qui est auprès du Seigneur maintenant, mon ami Gaston Racine, qui évoquait les frères Marteau et les sœurs Clou que Dieu met sur notre chemin pour changer nos vies à sa gloire. Alors il y aurait tant d'autres exemples à prendre que je ne prendrai pas maintenant pour ne pas nous faire aller plus loin. Permettez-moi quand même de prendre un seul texte du Nouveau Testament qui va dans le même sens pour que personne ne dise « mais tout ça c'est l'Ancienne Alliance » parce que nous avons bâti des murs de Berlin entre l'Ancien et le Nouveau Testament comme si le Dieu du Nouveau Testament était une sorte de Dieu complètement autre que le Dieu de l'Ancienne Alliance. Mes amis, mais Dieu est Dieu, un point c'est tout. Et c'est dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10, que nous lisons ce texte, ce témoignage plein de sobriété, de précaution, qui devrait inspirer nos témoignages quand nous nous aventurons sur des terrains délicats. Et après avoir évoqué cette révélation, ces visions toutes particulières qui furent siennes, avec de grandes précautions, l'apôtre Paul, au verset 7, décrirait « pour que je ne sois pas enflé d'orgueil ». À cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Dieu pour me souffleter. Vous avez un problème ? Un ange de Satan, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alors n'allons pas dire, comme on peut le lire dans certains livres, que cela sous-entend que l'apôtre Paul, quelque part, a eu un démon en lui-même. Je l'ai lu dans notre littérature évangélique. L'attaque de la puissance des ténèbres de l'extérieur est parfaitement possible et nous l'avons connue. Lorsque nous sommes au front et que nous marchons avec le Seigneur, nous subissons des coups. L'ennemi intervient pour nous déstabiliser et c'est là que Dieu veut transformer la tentation en épreuve dans laquelle il veut nous rendre vainqueurs. C'est si beau. Trois fois. Et il était juif. Converti à Christ. Il y avait toute sa culture, ce trois fois, ce superlatif. J'ai mis le paquet. Je lui ai dit de tout mon cœur. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plains dans les faiblesses. C'est ça ? Ah, il y a une haine de moi. Je me plais. Pas je me plains. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ah, mes bien-aimés, nous ne sommes jamais aussi forts que quand nous réalisons notre faiblesse. Parce qu'alors notre faiblesse, elle nous oblige à nous accrocher au basque du Seigneur tant
temps nous réalisons que séparés de lui, effectivement, nous ne pouvons absolument rien, mais vraiment rien faire.